consacré aux crises financières. Donc, nous avons jusqu'à 20 heures, mais nous sommes nombreux, vous voyez, autour de cette table. Je vais vous présenter tout de suite les intervenants. Donc, nous allons essayer d'être concis et de vous laisser du temps le plus possible. Je vais vous présenter, donc, dans l'ordre des interventions, les intervenants qui sont autour de moi. Donc, je ferai une brève introduction avec quelques photos de vacances que vous voyez derrière moi pour cadrer le sujet. Puis, nous avons essayé de respecter un ordre. Nous parlons d'abord des points de vue, des questions, je dirais, plus de principes sur la crise, puis des questions qui touchent à la situation des banques, et enfin des questions qui sont liées aux évolutions de la réglementation, à ce qui a été décidé au G20, à ce qui peut maintenant venir re-réguler la finance internationale. Et donc, dans l'ordre, après moi, donc Michel Aglietta, qui est à gauche, qui est Michel, vous connaissez, qui est professeur à Nanterre et qui travaille aussi au CEPI et à Groupama Asset Management. Puis Anton Brinder, qui est tout à fait à ma droite, qui est professeur à Dauphine et qui travaille à Dexia Asset Management. Puis Gilles de Margerie, qui est membre du comité exécutif de Crédit Agricole SA. Puis, il faut que je suive l'ordre, Jean-Paul Pollin, qui est professeur à Orléans. Puis Michel Sicurel, qui est président du directoire de la compagnie financière Edmond Rothschild. Puis André Cartapanis, qui est professeur à Sciences Po Aix. Et j'espère, comme ce n'est pas dans l'ordre, que je n'oublie personne, Olivier Klein, qui est à ma droite, qui est président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes et professeur d'économie à HEC. Donc voilà, et ensuite, la parole sera à vous pour interroger les uns ou les autres sur ces questions. Je vais très rapidement, puisque vous voyez que le timing est très serré, essayer d'introduire la question, et j'ai voulu l'introduire de cette manière, en disant finalement, quand on regarde ce que discutent les États, le communiqué du G20, ou les débats, je dirais, plus académiques, on voit que la réflexion sur la crise, donc ses causes et ce qu'il faudrait changer maintenant, part dans deux directions. Il y a une direction qui est microéconomique, que je vais élaborer dans un instant, et une direction qui est une direction beaucoup plus macroéconomique. Et un des sujets ce soir, ce sera d'ailleurs de se demander ce qui est le plus important, c'est-à-dire si on peut faire l'un ou l'autre, ou les deux. Est-ce que les réformes sont plutôt des réformes de la régulation, des incitations, de l'organisation de la finance, ou est-ce que ce sont des réformes sur le système monétaire international, le système de change, les politiques monétaires? Alors, j'avais prévu de commencer par quelque chose que je vais très rapidement sauter sur quelque chose qui concernait le déroulement de la crise. Je vais très, très vite. C'est une crise qui est d'abord une crise de l'immobilier américain, vous savez tous cela, et qui part, en fait, de la chute de la demande pour les maisons aux États-Unis. Comme il y a une chute de la demande pour les maisons aux États-Unis, les prix de l'immobilier baissent très fortement. Vous voyez ici la chute des prix de l'immobilier. Et ceci est vraiment le démarrage de la crise, puisque comme les prix de l'immobilier baissent, les Américains commencent à faire faillite sur leurs crédits. Et vous voyez les taux de défaut extravagants qu'on a sur les taux de les crédits aux ménages américains. Donc une des questions, évidemment, qui est levée, c'est la pratique de la distribution de crédits aux États-Unis, qui aboutit à des taux de défat, vous voyez, même si vous ne regardez pas les subprimes, sur l'ensemble des crédits qui sont aujourd'hui de plus de 6%, ce qui est tout à fait gigantesque. Ensuite, évidemment, tous les actifs financiers liés au crédit, comme les ABS liés au crédit hypothécaire, perdent énormément de valeur. Et ceci déclenche la crise bancaire. Les banques ont dans leurs livres ces actifs, et ces actifs subissent des moins-values tout à fait considérables, ce qui déclenche la crise bancaire. Et ensuite, la crise s'étend à tout, c'est-à-dire aux autres pays, aux autres actifs, par exemple des obligations d'entreprise ou les marchés d'actions. Vous voyez ici l'énorme hausse des primes de risque sur les actions qui représente, ou la chute d'ailleurs des cours boursiers. Elle s'étend au marché interbancaire. Vous savez que les banques ont dû se financer beaucoup plus cher à partir du début de la crise et que ceci est encore le cas aujourd'hui. Gilles de Margerie nous parlera des problèmes de financement des banques et des problèmes de liquidité des banques. Elle s'étend à toutes les dettes des banques, y compris les dettes à long terme. Elle s'étend, bien sûr, à toutes les actions. Et, interrogation de ces jours, est-ce que la crise est en train d'attaquer l'économie réelle par le rationnement du crédit? Est-ce que les banques vont moins prêter aux entreprises qu'avant? Ce qui, évidemment, transmettrait et renforcerait l'effet de la crise sur l'économie. Alors, quelles sont les deux écoles, je dirais, donc, sur les causes de la crise? Vous avez fait un superbe dessin. Après, ce matin, il y a une séance sur la modélisation en économie, dans le cadre de ces journées, où un des thèmes était la modélisation graphique. Donc, voici un exemple de modélisation graphique. Donc, vous ne voyez rien, j'avais un ami économiste qui disait que l'économiste est quand même beaucoup moins compliqué qu'une raffinerie de pétrole. Donc, vous voyez. Donc, voilà tout ce qui s'est passé. Alors, évidemment. Alors, évidemment, ensuite, on doit se poser des questions. Donc, est-ce que la crise est essentiellement une crise de type microéconomique ou macroéconomique? Et donc, groupe de questions, hein, quels sont les différents points donc, quand j'appelle microéconomique, c'est donc des points qui sont liés à l'information, au risque, aux règles et hein, aux normes prudentielles qui sont liées à la distribution de crédits, qui sont liés au fonctionnement des banques. Et donc ici, et rapidement, je ne peux pas être exhaustif, qu'est-ce qu'on a comme question? On a une première question qui porte sur la transparence, sur le degré de risque des actifs financiers. Alors juste si vous regardez ça, ce que vous voyez, c'est les tranches d'ABS. Donc les ABS, vous savez, sont ces actifs financiers qui sont construits à partir des autres actifs et en particulier des crédits. Est-ce que vous voyez, dans la colonne E-grade, c'est donc des tranches d'ABS dont les agences de rating ont dit que la qualité s'améliorait, et downgrade dont il est dit que leur qualité se détériore. Donc vous voyez, en 2008, apparaît un chiffre énorme dans la colonne downgrade, qui est tout d'un coup, on dit, bah, attendez, ce truc-là, c'est très risqué, alors qu'on ne le disait pas avant. Et donc évidemment, il y a eu un problème de transparence sur le niveau de risque des actifs qui pose le problème du fonctionnement des agences de rating, de l'information des investisseurs et aussi de façon plus compliquée d'ailleurs de la capacité de diversifier, de couvrir ce type de risque. Deuxième question qui est posée dans cette groupe microéconomique, c'est la question de l'absence de standardisation des actifs financiers. Vous savez qu'il y a beaucoup de discussions aujourd'hui sur le fait de dire qu'il serait beaucoup mieux d'avoir des actifs financiers qui soient traités sur des marchés organisés, centralisés, et pas de gré à gré. Quand les actifs sont traités de gré à gré, on ne sait pas bien. D'abord, les prix peuvent être très bizarres. Il n'y a pas d'affichage continu des prix. Il n'y a pas beaucoup de liquidité sur les marchés. Et vous savez qu'on parle, par exemple, de transformer le marché des CDS, hein, qui est le marché des dérivés de crédit d'entreprise, qui permettent de se couvrir contre le risque de défaut des entreprises, de transformer ce marché d'un marché de gré à gré en un marché organisé, centralisé. Mais ceci est vrai pour d'autres marchés. Hein. La standardisation insuffisante explique que des actifs, dans les crises, perdent beaucoup de valeur, parce que le marché disparaît pour des actifs très compliqués, pour lesquels il n'y a pas d'actifs comparables, et qu'on a du mal donc à évaluer. Et on pourrait donner beaucoup d'exemples de ce type d'actifs. Troisième groupe, toujours de côté microéconomique, qui joue un rôle très important, c'est tout ce qui touche aux règles comptables et aux normes prudentielles. Vous savez qu'il y a beaucoup de réflexions aujourd'hui sur le caractère procyclique des normes comptables et des règles prudentielles. Quand le prix d'un actif financier baisse, comme les normes comptables disent qu'on doit valoriser cet actif au prix de marché quand c'est possible, les détenteurs de cet actif font des pertes. Ils perdent du capital, si c'est une banque ou un assureur, et comme ils perdent du capital, d'après les règles prudentielles, ils peuvent détenir moins encore de cet actif, donc ils en vendent, et donc le prix baisse encore, etc. Et on arrive à une situation où on voit, par exemple, que, de façon assez claire, ceci conduit les investisseurs à avoir une action totalement déstabilisante. Vous voyez, par exemple, ici, qu'aux États-Unis, les entreprises, alors on peut regarder sur tous les actifs, les investisseurs, donc les assureurs-vie, les fonds de pension, achètent des obligations d'entreprise quand elles sont chères et les vendent quand elles ne sont pas chères. Hein, quand elles ne sont pas chères, c'est donc que le spread en vert est très haut. Et vous voyez, quand le spread monte, vous voyez les ventes qui baissent. Puis quand le spread baisse, les obligations d'entreprise deviennent chères et là, tout le monde en achète. Ce qui est exactement l'inverse du marché du poireau. Hein. Quand le poireau est cher, il y a peu de gens qui en achètent. Dans les marchés financiers, quand c'est cher, tout le monde achète, ce qui est évidemment assez déstabilisant. Donc il faut réfléchir aux normes comptables et aux normes prudentielles. Point suivant, allocation des risques. Alors ceci est la question dont d'autres reparleront de la titrisation. Je vous montre ici la taille de la titrisation aux États-Unis. La titrisation, donc, vous savez, c'est ce mécanisme par lequel les banques sortent les crédits de leur bilan. Donc vous voyez en gris l'encours de crédit qui a été fait par les banques aux États-Unis et en rouge ce qu'elles ont dans leur bilan aujourd'hui. Donc vous voyez qu'elles ont sorti de leur bilan à peu près 60% des crédits. Et ceci, c'est un exemple, mais qui est central, avec l'idée qu'on allait envoyer les risques de défaut des emprunteurs au travers de la titrisation, on allait sortir des bilans des banques et on allait les mettre dans les bilans d'autres investisseurs. Donc une question me paraît importante, qui est la question de l'efficacité de ce transfert de risque. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de prendre les risques de crédit, les risques de défaut des emprunteurs? Normalement, les banques connaissent leurs clients et de les transférer dans des bilans d'assureurs comme AIG, par exemple, qui était un énorme détenteur de ce genre d'actifs et qui ne connaît pas les clients. Donc, du point de vue de l'allocation des risques, on se dit que ce n'est pas très efficace de donner les risques à ceux qui ne connaissent pas bien la nature des risques ou le détenteur du risque. Et donc, il y a une vraie question, il me semble, sur l'allocation des risques à l'intérieur de la finance. Puis dernier point sur la microéconomie, c'est évidemment la façon dont on a fait les crédits aux ménages aux Américains. On a fait des crédits aux ménages qui sont arrivés à des taux de défaut extraordinaires, vous voyez là, avec des primes de risque sur les taux des crédits qui sont en vert, qui sont petites, et avec un lien qui était fait très étroitement entre le crédit et la valeur de la maison qui était achetée avec le crédit. Ce qu'il faut se rappeler, que ça partait d'une bonne intention, qui était de permettre aux Américains à faible revenu d'acheter des maisons. Disons, vous n'avez pas de revenus, mais finalement, on peut faire un crédit qui est gagé sur la valeur de la maison que vous achetez avec le crédit. Et on voit qu'on se condamne à ce que les prix des maisons ne baissent pas. Donc, quand les prix des maisons baissent, cette technique ne marche plus et fabrique cette hausse énorme des défauts. Alors, j'accélère. Je saute la liquidité bancaire dont nous reparlerons largement, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, et j'en viens maintenant. J'avais préparé un. Mais vous avez, de toute façon, le texte est trouvable sur le site des journées, donc les insomniaques pourront relire. Je passe maintenant aux causes macroéconomiques, donc tout à fait deuxième groupe de causes. Donc on n'est plus dans la réglementation, la liquidité, l'allocation des risques, la façon dont on fait des crédits. On est dans ce qui alimente l'endettement, les achats d'actifs, c'est-à-dire la liquidité. Quand on parle de liquidité, on a à l'esprit la liquidité qui est créée par les banques centrales dans leurs opérations monétaires. Les banques centrales, vous savez, achètent des actifs et paient en créant de la monnaie, qui est de la monnaie de banque centrale. Vous voyez ici la monnaie de banque centrale mondiale. Son taux de croissance est en gris à droite. Vous voyez qu'elle augmente de 15 à 20% par an, ce qui est 3 fois ou 2,5 fois le taux de croissance de la production du monde. Donc on a trop de monnaie, pour parler horriblement mal. Et évidemment, ceci joue un rôle majeur dans le déclenchement des crises. Cette énorme liquidité qui correspond aussi à des niveaux de taux d'intérêt bas peut être empruntée pour financer du crédit, des achats d'actifs. Et derrière les bulles financières ou les bulles d'endettement, il y a bien sûr l'excès de liquidité. Alors cet excès de liquidité vient essentiellement de deux sources qui sont intimement liées au système monétaire international et à la pratique des politiques monétaires. La source 1, c'est l'accumulation de réserves de change dans les pays excédentaires, émergents et pays producteurs de pétrole. Ce que vous voyez ici, c'est la variation sur un an des réserves de change des banques centrales et de la base monétaire mondiale, donc de la liquidité. Vous voyez, c'est la même série. Donc quand les banques centrales achètent des dollars pour financer le déficit extérieur des États-Unis, elles créent de la liquidité qui après circule et peut financer le crédit. Et donc on a bien sûr, ceci est tout à fait central dans la fabrication d'excès de liquidité, et ceci vient, alors si je voyais incidemment, vous voyez le rapport entre la liquidité mondiale et le PIB mondial. Donc en gros, pour parler horriblement, on a 2 fois plus de monnaie qu'il y a 10 ans, ce que normalement la morale réprouve. Et ceci vient bien entendu du financement par les banques centrales du déficit extérieur des États-Unis que vous avez ici en vert, qui vient lui-même du taux d'épargne des Américains, que vous avez ici en rouge, qui est de l'ordre de 0. Quand vous donnez 100 à un Américain, il consomme 100. Et même quand ça va très très mal, vous voyez, il continue à consommer 100, parce que on peut appeler ça l'optimisme américain. Voilà. Et puis, bien entendu, il y a des causes domestiques, ce qui est le côté criminel des banquiers centraux bien connu. Vous voyez qu'aux États-Unis ou en Europe, à aucun moment depuis 10 ans, on a eu des taux d'intérêt supérieurs au taux de croissance. Ce qui veut dire que la politique monétaire a tout le temps été expansionniste, même dans les périodes de boom économique, de croissance du crédit. Jamais on est revenu à une politique monétaire restrictive. Donc émergents ou pays d'Asie qui achètent des dollars et banques centrales expansionnistes, évidemment, on fabrique un excès global de liquidités et l'alimentation des bulles. Et puis dernier point dans la macroéconomie, c'est qu'effectivement nous avons perdu beaucoup d'instruments de la politique monétaire. On a été confronté, je saute tout ça, à une croissance très forte des crédits. Vous voyez, par exemple, les crédits immobiliers aux ménages espagnols, qui sont en bleu, vous voyez, qui ont énormément augmenté, et avec peu d'instruments. Le seul instrument de la politique monétaire, c'est le taux d'intérêt, si c'est l'Europe, le taux d'intérêt de la BCE. On ne va pas monter le taux d'intérêt de la BCE parce qu'il y a trop de crédits en Espagne. Et donc, on a perdu tous les instruments de réglage fin de la politique monétaire, hein, de changer les taux de réserve obligatoire, les ratios de bilan des banques, les ratios de liquidité qu'on avait dans le passé, à l'époque où les banques centrales étaient un peu plus staliniennes et avaient plein d'outils pour contrôler l'économie. Et aujourd'hui, on a un instrument et il ne suffit pas dans la plupart des cas. Et donc, les banques centrales, non seulement n'ont pas voulu probablement freiner le crédit, mais elles étaient en plus très embarrassées pour le faire parce que, par exemple, en même temps qu'il y avait trop de crédit au ménage, il n'y avait pas assez d'investissement des entreprises et donc on n'avait pas assez d'instruments. Donc, conclusion, et je passe tout de suite la parole à Michel Aglietta pour rentrer dans beaucoup plus de détails. On a vraiment deux pistes de réflexion. Une réflexion sur les incitations, la réglementation, les normes comptables, la pratique bancaire, qui est de type microéconomique, et une réflexion sur la fabrication d'excès de liquidité, la fabrication de bulles, les politiques monétaires, le déficit extérieur des États-Unis, qui est dans le domaine de la macroéconomie. Mon sentiment, c'est que c'est les deux à la fois qui ont fabriqué la crise, que s'il n'y avait que des déviations des comportements sans liquidité, ça n'aurait pas fabriqué une crise très grave, et que si on avait une régulation plus solide, même avec trop de liquidité, on aurait sans doute pu éviter le pire. Mais quand vous regardez le communiqué du G20 et deux des participants ici tout à l'heure vous parleront du G20, il n'y a pas un mot sur la macroéconomie. C'est quand même ce qui est stupéfiant dans le communiqué du G20. On parle énormément de la responsabilité des banques, de la réglementation, on parle des normes comptables, on parle des rémunérations dans la banque. Donc les gouvernements sont très 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 à l'aise quand il s'agit de critiquer les acteurs de la finance. Pas un mot d'autocritique des gouvernements en disant c'est parce qu'on a laissé exploser la liquidité depuis 15 ans aussi qu'on a eu cette crise, ceci n'apparaît pas. Et donc il faudrait éviter de traiter la microéconomie et pas la macroéconomie. Michel, la parole est à toi.
Merci beaucoup. Oui, Mais il marche. Bonjour, mesdames et messieurs. Je pense qu'on prend un risque, évidemment, en faisant une réunion aussi tard dans la soirée, sur cette crise, parce que nous pourrions avoir de mauvais rêves cette nuit. C'est évidemment un des risques que nous prenons. Cette crise, le chroniqueur Martin Wolf l'a appelée la mère de toutes les crises. En effet, c'est certainement la plus grave depuis l'après-guerre. Elle dépasse très largement, on va le voir, toutes celles qui ont précédé dans l'après-guerre, et surtout elle les englobe. Au lieu d'être une crise qui est une étape dans un processus de développement de la finance, je pense qu'il faut la penser comme une crise qui met fin à un régime de croissance, un type de croissance qui est une croissance fondée sur l'endettement débridé du monde occidental par le secteur privé. Et d'où l'intérêt toujours de ces crises, c'est-à-dire d'un côté elles sont évidemment désastreuses et provoquent des coûts sociaux importants, de l'autre côté elles ouvrent l'opportunité, et là on a l'opportunité probablement d'une réorganisation de la finance et d'une nouvelle phase de la mondialisation. Par rapport à ces questions, je voudrais simplement présenter en peu de temps, parce qu'il faut vraiment le faire en peu de temps, quatre éléments de réflexion qui vont sans doute appuyer un certain nombre de choses que Patrick a dit. Le premier, c'est que cette crise financière a une ampleur et une durée probablement très considérables parce qu'elle a eu une maturation prolongée. Le subprime est le catalyseur de la crise. La crise vient de beaucoup plus loin. Elle vient évidemment d'une combinaison, je crois, comme Patrick, de nombreux dysfonctionnements à la fois micro et macro. J'en relèverai ici simplement cinq. Le premier, c'est la dérive des comportements micro dans la finance. Il y a une mauvaise gouvernance des institutions financières. Tout ça pourrait être évidemment développé et argumenté, mais je me contente d'énoncer. Une mauvaise gouvernance des institutions financières qui a créé des incitations perverses à la prise de risques excessives, et cela sur de nombreuses années. Deuxième caractéristique, échec des modèles d'évaluation des risques de crédit et des ajustements opaques dans les marchés de transfert de risque de crédit, ce qui est tout ce gré à gré et ce gonflement de positions et de risque comme une patate chaude qu'on se passe, et finalement on n'a plus jamais su où il était, et ceci est revenu comme une contagion extrêmement rapide. Troisièmement, des déséquilibres macro accumulés, bien sûr, et concentrés sur les États-Unis depuis la crise asiatique. La crise asiatique a déjà été un tournant très important de ce point de vue-là. Quatrième élément très important, laisser-faire des autorités de régulation. En effet, un laisser-faire systématique des autorités. Mais tout ça étant englobé par une idéologie globale qui s'est développée à partir, disons, de la chute du mur de Berlin, qui est le consensus de Washington. Le consensus de Washington qui préconisait un certain nombre de principes, qui étaient l'état minimal, le privé est toujours bon, l'état est mauvais, la privatisation à outrance, l'ouverture sans limite au mouvement de capitaux, et y compris dans des pays qui n'avaient absolument pas les moyens de l'assumer, et enfin la déréglementation généralisée de la finance. Ça, tout ça a été véritablement les principes sur lesquels on a, dans les, pratiquement les 20 dernières années, on a évolué et qui nous mènent en effet à cette situation. Deuxième cas, ça c'est le premier élément de réflexion. Le deuxième, c'est que le modèle de crédit qui s'est développé depuis 10 ans a exacerbé considérablement cette logique de dérive d'une finance dans le crédit, car les banques ont cherché par la titrisation systématique et par les transferts de risque de crédit default swap, enfin disons les dérivés de crédit, à se défausser du risque, certes, mais pas seulement. En se défaussant du risque, elles permettaient, ça leur permettait de ne pas conserver de capital en réserve, puisqu'elle n'apportait plus le risque, pas besoin de capital. Donc, l'augmentation du levier d'endettement beaucoup plus important que dans le modèle traditionnel de crédit. Donc, il y a eu à la fois, disons, une détérioration de la qualité du risque et en même temps une augmentation massive du volume du crédit par la même logique de la titrisation. L'endettement privé, je donne simplement deux chiffres, a augmenté, l'endettement des ménages a augmenté à des rythmes à la fois inégalés et stupéfiants. Hein. Il faut croire que c'est les chiffres de la comptabilité nationale pour le croire. Alors, les ménages américains avaient, par rapport à leurs revenus disponibles, une dette de 70% du revenu disponible au milieu des années 90, 140% en 2007. Et les Anglais ont fait bien mieux, hein. C'est-à-dire en 10 ans, l'endettement des ménages est passé de 80% de leur revenu disponible brut à 180% de leur revenu disponible. Et donc si l'Angleterre aujourd'hui, le Royaume-Uni est aujourd'hui dans une situation désastreuse, c'est pas très, si vous voulez, quelque chose de très surprenant. L'autre élément important qui va avec, c'est la logique de la finance pour elle-même. Hein. C'est-à-dire que l'ensemble de ces éléments captés par, disons, le modèle de ce qu'on a appelé la banque de marché, a permis au secteur financier de prélever une rente absolument énorme sur l'économie. Deux chiffres là aussi. Aux États-Unis, les profits du secteur financier dans l'ensemble des profits des sociétés privées étaient de 10% en 1990, il est monté à 40% en 2007. Pour un secteur qui fait 5% de l'emploi. Donc vous pouvez dire, soit ces gens-là sont des supermen puisqu'ils ont une productivité du travail absolument extraordinaire, soit qu'il s'agit d'un prélèvement de rente massive, et donc vis-à-vis de l'allocation du capital dans l'économie, ça fait problème. D'autant que leur capitalisation boursière en même temps est passée de 6 à 19% de l'ensemble du secteur privé, quand on sait que c'est sur une période où l'ensemble, disons, de la cote boursière a monté énormément, entre 90 et 2007, en plus, vous avez un accroissement relatif aussi gigantesque, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le domaine de la finance. Ça, c'était mon deuxième point, cette amplification massive par le modèle dit de la banque d'investissement ou de la banque de marché, qui change très profondément la manière dont le risque de crédit est initié, transféré et évalué. Et ceci a entraîné des dysfonctionnements dans l'ensemble de ces problèmes et lié aux incitations perverses dont j'ai parlé tout à l'heure. Troisièmement, et ça c'est maintenant ça qui nous inquiète le plus, c'est évidemment que la crise se transfère à l'économie de la même manière que le processus, disons, d'endettement, anticipation de la hausse des prix des actifs faisait boule de neige et n'avait aucun mécanisme spontané de régulation. Pour des raisons que les gens peuvent comprendre, que tout le monde peut comprendre de manière évidente, puisque l'offre et la demande de crédit dépendaient de la même chose, c'est-à-dire de l'anticipation de la hausse des prix d'actifs. L'offre et la demande étaient très corrélées et marchaient en même temps, ce qui fait que le coût du crédit ne pouvait pas augmenter. Et si le coût du crédit n'augmente pas, ça veut dire que vous avez un échec, évidemment, de régulation par un renchérissement par le coût. Et donc, ce processus, lorsque le crédit est tiré par l'anticipation de l'augmentation de la richesse, et non pas par les revenus qui pourront rembourser le crédit, ce qui est la caractéristique de ce modèle de banque de marché, eh bien, vous amène à un processus de dérive, disons, du crédit. Mais cette dérive va dans les deux sens. C'est-à-dire que le processus de désendettement du secteur privé, s'il n'est pas maîtrisé par la puissance publique, mène forcément à des tendances fortement dépressives. Le désendettement a cette caractéristique de conduire irrémédiablement à une récession profonde et qui ne peut être, disons, maîtrisé, ça veut dire limité, que par le caractère d'emprunteur en dernier ressort des États. Donc je vous donne simplement un certain nombre d'éléments au point où nous en sommes. La récession occidentale en 2009, disons, si tout ne va pas trop mal, donc si ce processus dans lequel le secteur privé se désendette, crée une baisse des revenus, crée une augmentation du chômage, crée une baisse énorme des profits, qui fait retour sur de nouvelles dettes insolvables, qui repose des problèmes au système bancaire, évidemment, cet effet de second tour ne mène pas à une récession, mais à une dépression. En conséquence, ceci ne peut être maîtrisé que par la puissance publique, par la reprise en main des économies par l'État. Si, disons, et j'y viendrai pour terminer sur l'ampleur des plans publics requis, la récession occidentale, dans les hypothèses que nous avons actuellement, grosso modo, c'est entre moins 1,5 et moins 0,5. Moins 1,5 pour l'ensemble de l'année 2009, hein, mais avec un profil sans doute non linéaire, c'est-à-dire vous risquez d'avoir une très forte récession dans le T4, c'est-à-dire actuellement, nous sommes en récession importante, le premier semestre de l'an prochain, puis une reprise molle probablement ensuite. Hein. Mais le point intéressant, c'est que la consommation des ménages, pour la première fois depuis toute l'histoire d'après la Seconde Guerre mondiale, va baisser pendant une année entière, ce qui ne s'était jamais vu, à des rythmes assez importants, disons, d'autour de moins 3% aux États-Unis, et peut-être pas mal dans la zone euro non plus. Deuxièmement, la conséquence de la propagation fulgurante de la crise dans les pays émergents, en particulier d'abord dans les pays très fortement endettés en devises étrangères. Pensez à l'Europe de l'Est, et donc évidemment tous les problèmes que ça va entraîner sur les banques occidentales. Des pays comme la Bulgarie avec 25% de déficit courant dans le PIB, de Roumanie, d'Ukraine, des pays baltes et de Hongrie sont des pays qui sont dans une situation extrêmement difficile. Mais c'est pas seulement eux. Hein. Des gros pays comme le Pakistan, la Turquie, l'Argentine sont, il suffit de regarder les spreads de crédit de ces pays-là, sont dans des situations de quasi-insolvabilité. Ce qui veut dire que la croissance mondiale va probablement descendre en dessous de 1% l'an prochain. Et ce qui pose évidemment un trait d'enjeu sérieux, et c'est ça qui est l'élément qui me semble aujourd'hui le plus inquiétant pour ce qui est du risque de voir la récession se transformer en dépression, c'est que les forces négatives dont je viens de parler risquent de poser un danger très sérieux de déflation. Et là, c'est vraiment, évidemment, le problème le pire, parce que si nous avons déflation dans une économie qui doit se désendetter, nous tombons sur le fameux problème qui était celui du Japon. C'est que, puisque le taux d'intérêt nominal ne peut pas descendre sous zéro, une déflation entraîne nécessairement un taux d'intérêt réel positif. Or, on ne peut se désendetter d'une manière relativement ordonnée que si on a des taux d'intérêt réels négatifs. Donc, la déflation est évidemment le piège dans lequel les États-Unis ne veulent pas tomber et ils vont essayer de mettre tous les moyens pour qu'il en soit ainsi. Tous les moyens, c'est quoi? Eh bien, tous les moyens, hein, c'est évidemment de faire descendre les taux d'intérêt à zéro. Hein, le taux d'intérêt américain va aller à zéro à peu près sûrement. Je vous signale que le taux d'intérêt, il y a une telle aversion pour le risque, il y a une telle demande de titres sans risque. Aujourd'hui, le taux des obligations d'État à 2 ans aux États-Unis est descendu à 1%. Il va descendre plus bas. Il existe déjà des titres américains, des classes de titres américains dont le taux d'intérêt est zéro hein, dans ces derniers jours. La baisse énorme des bourses, si vous voulez, je pense que la baisse énorme des bourses qu'on a eue encore récemment et la relance, disons, de la fin octobre était évidemment un feu de paille. À mon avis, price le risque de déflation hein, du côté des marchés boursiers. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, des plans de relance budgétaires massifs et coordonnés. C'est la seule manière d'en sortir. Le plan chinois est, de ce point de vue-là, impressionnant, mais il est clair qu'il faut savoir s'il aura la rapidité d'exécution et si, étant donné qu'il n'est pas financé seulement par l'État, mais aussi par des entreprises et des banques, l'État central est capable d'entraîner les autres. Mais enfin, un plan de 586 milliards de dollars est un plan d'importance considérable. Probablement, l'action budgétaire américaine sera d'une grande envergure et elle aura une forme très différente à partir du moment où le président élu va prendre la responsabilité du pays. Il va y avoir probablement l'aide massive aux gens en modeste, c'est exactement l'opposé évidemment de Bush, en ce qui concerne les aides fiscales. Et peut-être alors, ce qui me semblerait le plus efficace, c'est-à-dire des rachats directs, des prêts aux ménages pour éviter les saisies et la baisse des prix immobiliers. Si on n'arrête pas la baisse des prix immobiliers, on ne peut absolument pas arrêter le processus déflationniste en cours. Alors donc, je pose la dernière interrogation. Que va faire la zone euro ? L'impuissance de l'action collective de la zone euro est bien connue. Va-t-elle être dépassée ? C'est-à-dire, va-t-il y avoir un plan coordonné d'ampleur suffisante ? La Commission propose 130 milliards d'euros, c'est probablement 1% du PIB, c'est probablement insuffisant. Et en particulier, que va faire l'Allemagne ? Puisque l'Allemagne est aujourd'hui dans une situation d'équilibre budgétaire et refuse de sortir de son orthodoxie en pleine période de récession économique, de chômage croissant, etc. Donc la question de fond, elle est là. Les deux grands autres pôles du monde qui ont les moyens, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine, vont agir. Que va faire la zone euro ? C'est la question à 1 million d'euros.
Merci Michel. Sur ces bonnes nouvelles, je passe la parole à Anton Brinder.
Merci beaucoup, mais j'avoue que j'ai hésité à venir d'abord parce que je savais que Michel allait nous faire une description qui n'était pas très réjouissante de la situation. Ensuite, parce que je fais partie de ceux qui depuis longtemps plaident en faveur des marchés et de la titrisation et expliquent qu'on en a besoin. Enfin, parce que j'ai écrit un livre sur les déséquilibres financiers internationaux et que j'ai expliqué que ça ne se terminerait pas forcément par une catastrophe. Enfin encore, mais ça ne le répétez pas parce que je travaille chez Dexia. Et donc, partant de cette base, Patrick l'avait dit, hein, donc je voudrais quand même répondre, moi non plus, je voulais quand même partir, essayer de répondre à la question qu'a posée Patrick autour duquel on tourne. Est-ce qu'on est face à des problèmes macroéconomiques ou à des problèmes microéconomiques ? Personnellement, je pense que la partie microéconomique l'emporte sur la partie macroéconomique. Je voudrais juste essayer d'expliquer pourquoi. En prenant comme fil directeur le petit livre qu'on avait écrit justement sur les déséquilibres financiers internationaux qu'on avait écrit avec ma collègue Florence Pisani. Alors la thèse que nous défendions, c'est que ça ne se terminerait pas forcément mal, et on le faisait pour s'opposer à ceux qui prédisaient, vu l'accumulation de déséquilibres aux États-Unis et en Chine, une catastrophe quasi inéluctable. Et alors on est dans une catastrophe, mais ce qui est quand même intéressant, c'est de bien regarder si c'est celle qu'on nous annonçait. Ce qu'on essayait d'expliquer, alors d'abord, quelle était la catastrophe qu'on nous annonçait ? La catastrophe qu'on nous annonçait, il faut bien s'en rappeler, c'était une catastrophe dans laquelle l'endettement extérieur américain continuant de progresser, comme il l'a fait, le reste du monde imposerait aux États-Unis une contrainte qui les forcerait à arrêter de s'endetter. Et cette contrainte, elle se matérialiserait par deux choses qui étaient la catastrophe attendue. Ces deux choses, c'était un effondrement du dollar, et c'était une explosion des taux auxquels emprunte l'État américain. Alors ce qui est important de constater, juste, et je répète, c'est le fil directeur qui est intéressant, c'est que cette catastrophe-là, dont nous essayons d'expliquer pourquoi elle ne devait pas avoir lieu, eh bien, elle n'a pas eu lieu. Hein, si vous regardez aujourd'hui ce qui s'est passé, les taux auxquels emprunte l'État américain, il emprunte à 3,15%. Hier, aujourd'hui, c'est 3,17%. On n'a jamais vu depuis très longtemps des taux aussi bas. Et le dollar américain, dont on nous prédisait qu'il devait s'écrouler sous le poids des déficits accumulés, il est, je pense, relativement solide, en tout cas si on le compare à beaucoup d'autres monnaies. Et donc, ce qui est intéressant, c'est déjà de voir que la catastrophe qui était annoncée ne s'est pas produite. Alors, pourquoi est-ce que nous disions que cette catastrophe-là ne devait pas se produire ? Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on essaie justement d'expliquer qui devaient la prévenir. La première, c'est que, si on regarde simplement les choses sous l'angle monétaire, la globalisation financière a profondément changé la façon dont se déterminent les taux de change, et le poids des déséquilibres courants qui sont mis en avant, qui étaient souvent mis en avant, est aujourd'hui beaucoup plus faible, et c'est pas qu'il n'a plus de rôle, mais il est beaucoup plus faible par rapport aux écarts de taux d'intérêt, aux différentiels de rendement, tout simplement parce que la taille des portefeuilles qui se déplacent d'une monnaie sur une autre est aujourd'hui beaucoup plus importante qu'elle ne l'était il y a une vingtaine d'années. Donc la globalisation a modifié la façon dont les déséquilibres courants pèsent sur le change, et de ce point de vue-là, je pense que nous avons eu raison. Deuxième chose, pourquoi est-ce qu'on ne devait pas voir le reste du monde contraindre les États-Unis à arrêter de s'endetter ? Tout simplement parce que le reste du monde n'a jamais prêté aux États-Unis. On ne prête pas à un pays, et donc l'endettement externe d'un pays, c'est une notion, en tout cas comme les États-Unis, c'est une notion complètement abstraite. En fait, le reste du monde, il prête à des agents américains, et quand ils considèrent que ces agents américains sont solvables, eh bien, ils n'hésitent pas à leur prêter. Pourquoi est-ce qu'on s'arrache aujourd'hui toujours des obligations du Trésor américain et qu'on continue de déposer dans les banques américaines ? Parce que quand on regarde la solidité de ces agents, leur solvabilité la compare à celle des agents du reste du monde, des agents comparables, des autres États, on s'aperçoit que l'État américain reste quand même aujourd'hui parmi ceux qui sont les moins endettés, il suffit de comparer l'État japonais, et, ou même un certain nombre d'États européens. Et donc, on a une situation dans laquelle, si vous regardez quels sont les agents dont le reste du monde détient les dettes ou sur lesquels il détient des créances, eh bien, ces agents-là, c'est essentiellement des entreprises, des ménages, des entreprises, des banques et l'État américain. Et ces agents-là n'ont eu aucune difficulté et n'ont toujours pas tellement de difficultés à continuer d'emprunter au reste du monde. Donc, la thèse que nous défendions, c'est qu'il n'y aurait pas de contrainte de l'extérieur qui viendrait empêcher les États-Unis de s'endetter. Alors, bien que nous ayons raison sur ces deux points, il y a eu une catastrophe, donc on a dû se tromper quelque part, bien sûr. On s'est effectivement trompé quelque part. La suite de la thèse, c'était que la limite à l'endettement américain, elle viendrait non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. De l'intérieur, pourquoi ? Parce que si on essaie de réconcilier tout ce que je viens de dire des entreprises, des ménages et de l'État, qui finalement sont relativement solvables, et que malgré tout, il y a un énorme endettement américain, ça veut dire qu'il y a à l'intérieur des États-Unis des agents qui, peut-être, n'empruntent pas à l'extérieur, mais qui empruntent beaucoup à l'intérieur, parce que sinon, on ne peut pas réconcilier tout ça. Effectivement, les agents qui s'endettent le plus et dont la situation financière est la plus fragile, ce sont les ménages américains, et ce que nous pensions, c'est que le système financier américain, fort logiquement, constatant que la capacité d'endettement des ménages américains était en voie de saturation, eh bien freinerait petit à petit leur endettement, exactement comme un banquier normal, lorsqu'il constate que son emprunteur est relativement trop endetté, lui dit bah, « écoutez, maintenant j'arrête de vous prêter ». C'est là où nous sommes trompés, ça je le confesse. C'est pour ça que je pense qu'une partie des causes du problème sont beaucoup plus microéconomiques que macroéconomiques. Le système financier américain, en prenant les agents privés, mais aussi ceux qui sont chargés de les réguler, n'a absolument pas fonctionné normalement. Autrement dit, à un moment où on aurait dû voir ce système financier imposer un freinage à l'endettement des agents qui empruntent, exactement comme le fait un banquier normal, eh bien, on n'a pas eu ce comportement. Et au contraire, on a trouvé toutes les astuces qu'on pouvait pour aider ceux qui étaient hors d'état d'emprunter dans des conditions raisonnables, de le faire quand même, parce qu'un certain nombre de personnes y avaient intérêt. Donc je pense qu'il y a vraiment, du côté de ce rôle du système financier américain, des agents qu'il compose, mais aussi de ceux qui étaient en charge de le surveiller, une assez forte responsabilité. C'est pas seulement parce qu'au total, la catastrophe dont on disait qu'elle n'aurait pas lieu a eu lieu, qu'on leur en veut particulièrement, hein. Je ne suis pas mesquin comme ça, mais l'idée, c'est qu'il y a vraiment un défaut de régulation majeure, largement microéconomique, et je sais bien qu'on peut ensuite discuter, on a l'habitude de discuter avec Patrick depuis des années, entre est-ce que la politique monétaire est ou pas responsable. C'est pas parce que les taux sont bas qu'un banquier doit prêter à quelqu'un qui ne pourra pas rembourser. C'est pas parce que les taux sont bas que les agences de régulation publiques qui ont décidé qu'une norme triple A, eh bien, c'est quelque chose qui était autorisé, ça autorisait des placements pour tel type d'institution. Si on décide d'associer des normes, des notes qui sont fixées par des agences de notation à des normes qui édictent une autorité publique, ce qui est le cas, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est, les notes, elles sont fixées par des agences privées, mais elles s'appliquent dans un système qui, lui, est un système de surveillance défini par des agents publics. Eh bien, que les agents publics qui ont fixé ce système de surveillance en se référant aux notes qui sont fixées par les agences de notation ne contrôlent en rien les notes qui sont mises par les agences de notation, ça n'est pas normal, puisqu'en fait, ça revient à vider la régulation de son pouvoir. Les agents privés vous disent, ben, ça, c'était du triple A, moi je ne me pose pas de questions, hein, j'avais le droit, je l'ai mis et on m'a dit que je pouvais mettre du triple A. Sauf qu'il aurait fallu vérifier donc ce que faisaient les agences de notation, on ne l'a pas fait. Et donc moi la conclusion que je voudrais mettre en avant, mais toujours pour la discussion, c'est que ce n'est pas parce que les taux étaient bas qu'on a eu des problèmes. Je pense que la politique macroéconomique qui a été menée aux États-Unis, bon, on peut toujours la critiquer un peu, mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut chercher l'essentiel du problème. Avec des taux bas, mais un système financier correctement surveillé et qui remplisse, qui fonctionne normalement, ce qui n'a de beaucoup pas été le cas, eh bien, on n'aurait pas dû voir, dans les proportions qu'on a eues, les dysfonctionnements qu'on a vus, et on n'aurait pas aujourd'hui une attitude aussi négative face à un certain nombre d'innovations financières, comme la titrisation, comme un certain nombre de mécanismes de transfert de risque, dont je pense que nous avons le plus grand besoin, à condition que nous comprenions que ces choses-là ne peuvent être au service de quelque chose de positif, que si en même temps que les agents privés les mettent en œuvre, les agents publics s'efforcent de contrôler beaucoup mieux qu'ils ne l'ont fait ce qu'en font les agents privés. Parce que vivre avec l'idée que les agents privés s'autodisciplinent, s'autorégulent et savent ce qu'ils font, on sait depuis malheureusement très très longtemps que c'est vivre avec une idée fausse.
Merci Antoine.
Donc, et nous suivons donc cette organisation. Donc, ayant traité les questions macroéconomiques, nous allons maintenant parler plus avant des banques. Et je passe la parole à Gilles de Margerie, qui va commencer donc sur les questions liées à la situation et aux problèmes du système bancaire.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, Antoine, lui, il a des circonstances atténuantes parce qu'il est économiste et banquier. Moi, je suis banquier tout court. Alors, c'est assez mal parti, parce que ces temps-ci, quand on dit qu'on est banquier, il faut prendre son souffle, et puis on y va, et ensuite on essaie d'expliquer ce qu'on fait, c'est pas super simple. Alors je vais quand même essayer, en fait, de vous raconter ce qu'on a vécu au cours des 18 derniers mois, un petit peu plus en remontant dans le passé pour donner un peu le contexte. Et ce que m'a demandé Patrick Artus, c'était d'insister sur ce que nous pensons qui va se passer dans les temps qui viennent pour les banques, ce qu'on va pouvoir faire dans les temps qui viennent. Donc je vais essayer d'aborder ça comme ça. Alors dans les dernières années, disons dans les 10 dernières années, pour les banques, ce qui s'est passé, c'est qu'on a prêté de plus en plus. Alors ça, sous des formes macroéconomiques, ça vient d'être dit par plusieurs interlocuteurs. Et pendant qu'on prêtait de plus en plus et qu'il y avait un développement énorme du crédit, nous avions de moins en moins de dépôts qui venaient sur nos bilans. Parce que les clients, ça ne les intéressait pas beaucoup de laisser leur argent dormir dans nos comptes. Et donc, il y avait de moins en moins d'argent des clients dans les banques. Et donc, nous devions, tous les ans, trouver de plus en plus d'argent à emprunter, nous, pour pouvoir le prêter à nos clients. En gros, en France, dans les années 2003, 4, 5, à peu près toutes les grandes banques qui ont des réseaux ont commencé à devenir emprunteuses nettes. Crédit Agricole était particulièrement équipé en ressources de dépôt, donc ça nous est arrivé en 2005. Et donc à partir de 2005, nous avons commencé à emprunter, comme nous sommes une grosse banque et comme toutes les grosses banques en Europe, ça fait assez vite des chiffres importants. Ça se mesure tous les ans en dizaines de milliards d'euros qu'il faut aller trouver dans les marchés. C'est assez logique, si pendant 10 ans les crédits augmentent de plus de 10% par an et que les dépôts augmentent de 3, 4 ou 5%, il y a quand même un moment où il faut trouver la différence, et la différence, on va aller la trouver dans les marchés. Alors ça s'est passé très bien, et honnêtement, c'était pas particulièrement compliqué à faire, parce que quand on voulait aller dans les marchés, qu'on était une banque solide, qu'on avait des bons fonds propres, on allait emprunter, et il y avait une liquidité extrêmement abondante qui venait très volontiers s'investir dans les banques, et il n'y avait absolument aucune difficulté. J'étais directeur financier du Crédit Agricole au début des années 2000, je passais 4 fois une heure avec le trésorier de la banque par an, et on faisait le programme pour lever 10, 20, 30 milliards d'euros. Et les questions qu'on se posait, c'était est-ce qu'on va plutôt emprunter dans telle devise, sur tel type de maturité? Mais c'était absolument pas du tout un souci. Cela dit, effectivement, nous étions dépendants et devenus très dépendants de la capacité du marché à financer l'écart que nous avions entre les prêts que nous consentions à nos clients et les ressources stables que nous avions à notre bilan. Dans le même temps, comme il y avait énormément de gens qui étaient prêts à prêter, que les crédits croissaient beaucoup, nous ne gagnions pas beaucoup d'argent sur les crédits. Un très grand groupe empruntait quasiment comme un État, un très grand groupe industriel. Donc les plus gros crédits que nous faisions, c'était à des gens qui avaient 20 centimes de marge au-dessus du taux sans risque, typiquement. Et donc, on développait ça, mais ce n'était pas quelque chose d'extraordinairement rentable. Et pendant ce même temps, se développait la finance de marché. Et la finance de marché, elle était extraordinairement rentable. Alors évidemment, quand on regarde ça rétrospectivement, on se demande comment on calculait la rentabilité de la finance de marché. On la calculait en rapportant les résultats qu'on faisait dans les activités de marché au capital qu'on allouait à nos activités de marché. Et ce capital, on l'allouait sur la base des mesures conventionnelles de risque que déterminent les mathématiques financières sur la base des statistiques historiques de risque. Donc en gros, si ça n'a pas connu de graves accidents dans le passé, il n'y a pas besoin de beaucoup de fonds propres pour faire des activités de marché. Et elles sont donc extraordinairement rentables. Les banques, donc, avaient une incitation extrêmement forte à développer leurs activités de marché, parce que là où elles gagnaient du 5 ou 6 % sur fonds propres quand elles faisaient du crédit, elles gagnaient du 20, du 30 ou du 40 % sur fonds propres. Ce ne sont pas des chiffres que j'invente, ce sont des chiffres que vous pouvez aller regarder dans les rapports annuels des grandes banques qui avaient des activités de marché sur les exercices 2005 et 2006. Elles gagnaient donc du 30 ou 40% sur les fonds propres qu'elles mettaient dans les activités de marché. Donc elles développaient les activités de marché. Et on avançait comme ça, et le régulateur, lui, régulait. Et là, il y a une petite légende qui est que le régulateur ne régulait pas. Le régulateur régulait énormément. Et pendant ces années, nous avons, chacune des grandes banques, investi des dizaines, quelquefois des centaines de millions d'euros pour répondre aux demandes des régulateurs qui faisaient ce qu'on appelle le passage à Bâle 2 et qui nous demandaient d'être capables de comprendre sur des périodes très longues les statistiques de risque de crédit. Et donc, on faisait d'énormes bases statistiques pour comprendre comment fonctionnaient les risques de crédit sur très longues périodes. Le régulateur était extraordinairement présent. Le seul sujet, c'est qu'il ne régulait ni la liquidité, ni les opérations de marché, mais exclusivement le crédit. Et qu'aujourd'hui, même si le crédit demain va être extrêmement risqué, tous les problèmes que nous connaissons, ils viennent de la liquidité et des risques de marché. C'était donc pas qu'il n'y avait pas de régulation, c'est que la régulation ne portait pas sur le bon sujet. Alors ensuite, depuis août 2007, a commencé une crise dont vous connaissez tous les épisodes. Je ne vais pas vous la rappeler, ce n'est pas le sujet. Je vais juste dire une chose qui peut-être n'a pas été bien perçue, c'est que dans la crise, il s'est produit des phénomènes tout à fait extraordinaires qui ont lié les problèmes les uns aux autres. Le plus spectaculaire de ces problèmes, c'est ce qui se passe quand le cours d'une banque baisse. Quand le cours d'une banque baisse, les investisseurs se disent que cette banque a des problèmes. Et à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est que le spread de crédit sur le marché des CDS explose. Et si la banque veut se refinancer, elle doit le faire à des taux prohibitifs ou tout simplement, elle n'y arrive pas. Ça veut dire en pratique que quand vous faites baisser le cours d'une banque, vous pouvez lui fermer l'accès au refinancement. C'est ce qui est arrivé à grande ligne à Bear Stearns. Il y a donc une arme qui très extraordinaire qui permet de tuer une banque en ne lui permettant plus d'accéder au refinancement. Ça permet de la tuer parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les banques sont toutes devenues extrêmement dépendantes du refinancement puisqu'elles ont beaucoup plus développé leurs emplois que leurs ressources. Mais le résultat, hélas, c'est que les banques peuvent mourir du fait qu'elles n'accèdent plus au refinancement parce que leur cours a baissé. Et toutes les banques ont compris que ça pouvait leur arriver. Absolument toutes les banques. Et jusqu'à la mi-octobre et jusqu'aux plans qui ont été annoncés à la mi-octobre, absolument toutes les banques pouvaient y passer. C'est seulement depuis la mi-octobre que les banques se disent que ce risque systémique-là est évité. Et je crois qu'il faut qu'on ait ça en tête parce que ça a un peu concentré l'attention des banques pendant la période, je peux vous le dire. Alors qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant ? Alors je vais essayer de dire ce que je vois du côté des banques et puis très rapidement ce que je vois du côté des régulateurs. Du côté des banques, ben, on va refaire nos métiers traditionnels plus que les métiers de marché parce qu'on a compris entre-temps. On a compris que, on a compris que mesurer les risques de marché avec les instruments sophistiqués, la mathématique financière, la VAR, ce genre de trucs-là, c'était simplement, comme le disent très bien d'ailleurs les gens qui font de la mathématique financière, s'occuper d'un instrument qui s'occupe de ce qui se passe quand il fait beau, mais qui vous dit absolument rien de ce qui se passe quand il y a une tempête. Et quand il y a une tempête, vous pouvez perdre un multiple très élevé des fonds propres que vous mettiez en face de vos activités de marché. C'est ce qui s'est passé pour toutes les banques. Je crois qu'on a appris la leçon. On n'a même pas besoin des régulateurs pour changer nos comportements sur ça. Alors les régulateurs vont faire leur devoir. Je viens quand même sur ça dans un instant. Mais on a compris cette leçon. La deuxième chose, c'est qu'on va, à l'intérieur de nos activités de marché, changer très sensiblement la manière dont on fait. Je reprends un des thèmes qu'évoquait Patrick Artus tout à l'heure. On va cesser de faire des choses tellement compliquées que plus personne n'y comprend rien. Je donne une illustration parce que les gens n'ont pas bien perçu ça. Les instruments sont devenus tellement sophistiqués que dans les banques, on recrutait des équipes de risque aussi sophistiquées que les gens qui faisaient les produits pour pouvoir comprendre, et qu'il y avait des gens dont le travail, c'était d'essayer d'expliquer ça à la direction générale. En gros, la direction générale, généralement, ne comprenait rien, mais faisait confiance à la mathématique financière et au système de risque, et vérifiait qu'elle respectait toutes les règles. Ce que nous faisions, comme tout le monde, ça ne nous a pas empêché de perdre énormément d'argent, parce que nous utilisions des instruments qui étaient absolument incapables de rendre compte de ce qui se passe quand on sort des risques statistiques mesurés dans le passé. Et la définition même d'une crise systémique, c'est qu'elle est le contraire d'un risque statistique constaté dans le passé. Nous allons gérer très différemment notre liquidité. Alors aujourd'hui, nous faisons notre liquidité auprès des banques centrales, donc on n'est pas bien, parce que ce n'est pas une solution durable, et nous ne savons pas comment nous allons la gérer demain. Nous sommes en train d'essayer d'imaginer, on réduira nos écarts entre ressources et emplois, c'est certain, et puis on essaiera de sécuriser des ressources longues en face des emplois longs. Ça va changer totalement la manière pour nous de faire du crédit dans les années qui viennent. Qu'est-ce que les régulateurs vont faire de leur côté? Ils vont pas changer profondément la régulation de marché de liquidité parce que c'est horriblement compliqué et qu'avant de trouver des bonnes règles, ils vont mettre 2, 3, 4 ans pour définir des bonnes règles. Ils vont utiliser les pouvoirs discrétionnaires qu'ils ont dans le cadre de Bâle II pour nous encadrer, surveiller notre liquidité, nous dissuader de faire trop d'opérations de marché. Donc il faudra beaucoup plus de fonds propres en face des opérations de marché. D'ailleurs, vous avez vu, autrefois, tout le monde pensait qu'on était bien quand on avait 6 ou 7% de ratio de solvabilité. Maintenant, si vous n'êtes pas à 8 ou 9, on vous regarde avec un drôle d'air. Donc ils ont déjà commencé à utiliser leur pouvoir discrétionnaire qui consiste à mettre beaucoup plus de capital en face de la même activité. Et en plus, cette activité, entre-temps, elle a beaucoup diminué de taille. Donc on a déjà fait une bonne partie du chemin, mais on va continuer dans cette direction-là. Et puis derrière ça, les régulateurs vont imposer des règles simples et de très très bon jugement, qui vont nous dire que quand on paye trop les gens, ça les incite quand même à faire des bêtises et à aller trop sur les marchés. Et donc un des critères qu'auront les régulateurs, c'est de s'assurer que les rémunérations des opérateurs de marché ne sont versées, si elles sont significatives, qu'une fois que l'opération est débouclée et qu'elle ne porte plus de risques. Ça va changer assez nettement la manière de faire. Avant, vous aviez des équipes qui vous disaient « je vous rapporte du 40%, vous me payez bien parce que si je m'en vais, vous gagnez plus d'argent ». Maintenant, d'abord, on va beaucoup avoir plus de fonds propres en face, donc elles vont gagner du 10%. Leur argumentaire a un petit peu baissé. Et en plus, si on se mettait à vouloir les payer bien, on se ferait taper sur les doigts, ce qui est une excellente chose. Et donc, on va aller vers un peu plus de sagesse, vers la rémunération des opérateurs de marché, ce qui sera un élément de sagesse collective. Puis derrière ça, il y a une question sur les régulateurs un peu particuliers, qui sont les agences de notation, et j'en ai terminé avec ça. Tout le monde a l'air leur tomber dessus, ces temps-ci. Bon, ils se sont trompés sur pas mal de choses. Mon sentiment, c'est que bien sûr, on va les encadrer, bien sûr, on va publier leurs méthodes. La vraie solution, c'est quand même de dire aux gens, arrêtez de cesser de faire votre métier, faites votre métier. Quand vous prenez quelque chose qui a une note 3A, enfin triple A ou double A, demandez-vous quand même ce que vous êtes en train de faire. Je trouve que le procès qu'on fait aux agences de notation exonère un peu facilement les banques et les investisseurs en général de leurs responsabilités. Et donc, quoique banquier, je pense dans cette affaire-là qu'il y a de l'excès dans le procès qui est fait aux agences de notation. Et d'ailleurs, je note que les propositions qui ont été faites sur la réforme des agences de notation sont de portée assez modeste et ne vont pas beaucoup plus loin que des questions de gouvernance, de conflit d'intérêts ou de transparence, mais que personne n'a inventé fondamentalement mieux que ce qu'elles sont. Je dis en passant que la solution consistant à les nationaliser conduirait à faire porter par la puissance publique la responsabilité de l'appréciation des risques de crédit, ce qui n'est pas forcément quelque chose que les États ont envie de faire non plus, parce que nous savons que ce n'est pas extrêmement simple. Voilà, donc, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir si tout se passe bien, ce que je viens de vous dire. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que la grande leçon des derniers jours, pas de la dernière année ou des dernières semaines, c'est qu'on commence à se gratter la tête les uns et les autres sur la question de savoir si la taille des plans publics, qui, comme vous le savez, se mesure en milliers de milliards d'euros ou de dollars, est adéquate à l'ampleur de la crise. Et nous n'en sommes plus tout à fait sûrs. À la mi-octobre, nous le pensions. Aujourd'hui, je dirais que chez beaucoup de banquiers, il commence à y avoir une approche qui est de se dire que nous l'espérons, que nous allons tout faire pour que ce soit le cas, mais que nous n'en sommes pas tout à fait sûrs. Merci.
Merci Gilles. Donc nous continuons sur les banques et la régulation des banques avec Jean-Paul Paulin.